Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Et je suis aujourd'hui avec Pierre-François Lelouette, président de Nelly Rodi. Bonjour Pierre-François.
Bonjour.
Et donc aujourd'hui, on va parler grands magasins. Cette semaine, on a entendu la faillite de Barneys. Tout d'abord, c'est quoi Barneys ?
Barneys, c'est un empire de la distribution qui fait vraiment partie du paysage américain et du paysage de Manhattan en particulier depuis 1923. Donc c'est vraiment une des grandes marques iconiques de grands department stores qui a distribué, découvert un très grand nombre de designers et ouvert le marché américain à un très grand nombre de designers. Et comme Armani, comme Alaïa, comme des garçons, etc. Alors c'est des department stores hein, avec ce grand magasin iconique de Madison, mais il y en a une dizaine d'autres aux États-Unis. Il y en a un notamment à Beverly Hills, à Los Angeles. Et puis c'est aussi 7 magasins discount et 2 sites internet. Et c'est important de le mentionner dès maintenant parce que vous allez voir que ces magasins discount et ces sites internet on joue aujourd'hui aux États-Unis un rôle extrêmement important dans la distribution, y compris pour les department stores. Alors le 31 octobre dernier, effectivement, on a eu tous un choc en apprenant que Barneys avait été vendu pour 271 millions de dollars par appartement un peu. Et donc cette marque Barneys a été rachetée par un groupe qui s'appelle Authentic Brands, qui est un groupe américain que l'on connaît parce qu'ils ont des marques comme Juicy Couture, Nine West, Nautica, donc ce n'est pas non plus le LVMH local. Ce groupe qui a racheté donc Barneys va gérer ce nom comme une licence en développant notamment des shop-in-the-shop chez ce qui était un concurrent de Barneys, Saks Fifth Avenue, donc un autre grand magasin, une autre chaîne de department stores américains. Qui aujourd'hui appartient à un groupe qui s'appelle Hudson Bay. Et Hudson Bay, c'est aussi un autre groupe de grands magasins, mais cette fois-ci canadien. Donc les grands magasins américains, ça a fait la fortune de tous les designers dans les années 70, 80, 90. Ces grandes chaînes de grands magasins ont mis en place des réseaux absolument gigantesques sur l'ensemble du territoire. Barneys était un des plus petits réseaux hein, par rapport à ceux que l'on connaît chez Bloomingdale's ou chez Macy's. Mais c'est vrai que de se dire que tous les magasins Barneys vont être fermés de manière assez rapide, on risque d'assister à des promotions absolument gigantesques dans le grand magasin de Madison Avenue qui risquent d'être totalement historiques parce qu'il faut maintenant liquider les stocks de tout le monde. Et que va devenir ce grand magasin, en tous les cas physiquement sur Madison Avenue, on ne le sait pas vraiment. Authentic Brands nous dit qu'ils vont peut-être le transformer en pop-up store permanent, tandis donc qu'on a compris qu'il y aurait ce partenariat entre Barneys et Saks Fifth Avenue et que le 5e étage de Saks Fifth Avenue à New York serait transformé donc en Barneys, avec une sélection Barneys en tous les cas.
D'accord. Alors, cette crise est emblématique de grandes inquiétudes sur les grands magasins dans le monde entier. Est-ce que cette crise des grands magasins est généralisée aux États-Unis ?
Oui. Alors, aux États-Unis, c'est vrai que la situation n'est pas très joyeuse pour les grands magasins. Il y a des réseaux qui sont extrêmement puissants et qui couvrent tout le territoire avec des chaînes de grands magasins qui sont plus ou moins haut de gamme. On pourrait citer Neiman Marcus, Barneys, Macy's, Bloomingdale's, Saks, Nordstrom. Bref, ces department stores, comme on les appelle aux États-Unis, ont considérablement réduit la taille de leur réseau depuis 5 ans. Et la faillite de Barneys n'est vraiment que le point d'orgue de cette crise qui a déjà vu disparaître d'autres grands magasins iconiques comme Lord & Taylor à New York, qui s'est transformé en WeWork, okay. Par exemple. Et vous savez que WeWork, c'est bien sa boîte de la nouvelle économie, ils ont quand même eu un peu de mal et ont dû se retirer de la bourse, hein, n'ont pas réussi leur introduction en bourse il y a quelques semaines. Okay. Et puis, il y en a un autre qui a disparu aussi, qu'on aimait beaucoup, c'était Henri Bendel à New York. Ce qui n'empêche pas hein, d'une certaine vitalité, c'est-à-dire que tous ces grands magasins sont très paumés dans leur modèle économique. Alors certains ferment, d'autres ouvrent de nouveaux concepts. C'est le cas de Nordstrom ou de Neiman Marcus qui ont ouvert à New York très récemment alors qu'ils n'étaient pas présents dans Manhattan.
Comment ça se traduit d'ailleurs ? C'est des résultats qui sont intéressants ?
Bah, c'est des résultats. Alors, c'est encore trop tôt pour vraiment le savoir, parce que Nordstrom a ouvert il y a simplement quelques semaines à côté de Central Park. Neiman Marcus a ouvert dans un nouvel espace Hudson, à côté de la rivière Hudson, qui dans une grande galerie marchande, avec beaucoup de DNVB qui ont ouvert pour la première fois des magasins physiques dans cette galerie marchande. Donc ça attire quand même pas mal de monde. C'est un peu trop tôt pour savoir quel est le bilan de ces deux ouvertures, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de fermetures que d'ouvertures, en particulier aux États-Unis, où la distribution physique souffre considérablement. Chaque année, depuis 3 ans, il y a environ 3000 magasins de mode qui ferment sur le territoire américain. Et pour ne reprendre que le department store Macy's, il faut savoir qu'en 3 ans, entre 2016 et 2018, il a fermé 100 magasins.
C'est énorme.
Ce qui est vraiment énorme. Alors en France, on n'a pas vraiment idée, parce qu'on a quelques chaînes de grands magasins avec des magasins en province, bien sûr, mais qui n'ont pas la taille de ces réseaux absolument gigantesques. Et pour les department stores américains, c'est vraiment extrêmement difficile. En 5 ans, ces grands magasins ont perdu 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit en gros une chute de 25% de leurs ventes. Alors, certaines chaînes de grands magasins, à l'image des 323 grands magasins de la chaîne Nordstrom, qui elle est basée à Seattle, s'en sortent un petit peu mieux que les autres, parce qu'ils ont un excellent service client, parce qu'ils ont entamé une transformation numérique, développé des apps qui connectent directement les clients et leurs stylistes, leurs conseillers de vente, parce qu'ils ont une très bonne formation des vendeurs, etc. Mais c'est quand même toujours extrêmement compliqué. Les cours de bourse se cassent la figure. Les grands magasins sont rachetés par des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement s'endettent pour pouvoir payer les loyers de ces grands magasins qui sont absolument astronomiques. Bref, il y a un petit marasme là aux États-Unis qui touche vraiment les esprits. Et pourquoi ça touche les esprits ? C'est que cette faillite de Barney's, c'était vraiment le magasin, le grand magasin emblématique des designers, avec une offre qui était extrêmement importante et qui était aussi emblématique de tout un quartier dans New York. C'était le Madison Avenue des années 90, avec les mégastores Calvin Klein, Donna Karan, Ralph Lauren. Et aujourd'hui, toute cette zone de Manhattan est assez sinistrée.
C'est la fin d'une époque.
Ouais. C'est vraiment la fin d'une époque pour beaucoup. C'est la fin d'un certain type de mode aussi. C'est la fin de cette mode américaine aussi, qui dans les années 90, on pensait qu'elle allait se développer considérablement, et Barney's était vraiment emblématique de tout ce mouvement de marché. Et malheureusement, depuis la crise de 2008, ce quartier de Madison a entamé une très longue descente aux enfers. Et la disparition de Barney's est évidemment le pire signe que l'on pouvait imaginer. Alors, il y a eu d'autres facteurs, bien sûr, qui ont participé à la chute des grands magasins américains. Il y a eu beaucoup de développement de magasins de discount, y compris, donc, je vous le disais en introduction tout à l'heure, il y a eu des grands magasins qui ont développé eux-mêmes leur magasin de discount, leur chaîne de grands magasins discount, off-price, qui propose des réductions, qui sont des magasins, en fait, de soldes permanents. Et les soldes aux États-Unis sont particulièrement importants, à la fois parce qu'il y a beaucoup d'espace physique, parce qu'il y a beaucoup de magasins, donc il y a beaucoup de produits en solde. Et puis il y a aussi tout ce phénomène des retours. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut essayer une robe, on la rend 3 jours après, on se fait rembourser. Enfin, c'est un système qui est totalement généralisé aux États-Unis, sauf qu'on ne la rend pas toujours dans un super état, donc on est obligé de la discounter. Et donc voilà, tous ces grands magasins off-price qui se sont constitués, ou toutes ces chaînes qui ne sont pas forcément dans des grands magasins, mais qui sont des chaînes off-price, elles se sont beaucoup développées. La chaîne Ross, par exemple, a ouvert 100 magasins sur la même période où Macy's en fermait 100. Donc Ross, c'est du discount.
Ouais.
Et donc toutes les offres discount, elles fonctionnent plutôt bien, mais pour les grands magasins, comme c'est du discount, c'est de la marge en moins aussi, donc bien c'est sûr. Pas intégré dans leur modèle économique initial. C'est toujours un petit peu compliqué à faire vivre.
Et sur le e-commerce, ils ont su se développer
oui.
Au fur et à mesure que Internet est arrivé.
Oui, tout à fait. Donc, notamment les Neiman Marcus, les chaînes de grands magasins sont plutôt en avance sur ce plan-là par rapport aux grands magasins européens ou japonais. Ils ont développé une offre digitale assez pointue. Mais là aussi, il faut toujours payer le loyer du grand magasin physique. Et donc, ça ne participe pas à améliorer la marge de ces grands magasins. Donc, il y a eu une numérisation, une transformation numérique qui s'est mise en place dans les grands magasins. Il y a eu cet effet donc, du développement de toutes les chaînes off-price qui ont aussi, là aussi grignoté de la marge pour ces grands magasins. Et puis, il y a eu, du côté du bas de l'échelle, tous ces supermarchés américains, les Costco, les Target, etc., qui ont développé des private labels, donc des marques en propre de textile, de mode, qui, elles, cartonnent. Parce que là aussi, c'est pas cher. Donc, c'est comme si tout le marché américain s'était un peu cassé la figure vers une offre moins chère, vers une offre moins créative, une espèce de descente aux enfers de la mode américaine, dont la faillite de Barney's est le point le plus emblématique. Et puis, il y a les nouveaux concurrents.
Et oui.
En plus, que sont les Matches Fashion, les Essence, les Net-a-Porter, toutes ces plateformes digitales qui viennent concurrencer les sites internet des grands magasins ou les magasins physiques et qui eux aussi ont pris évidemment beaucoup de parts de marché.
Ouais, c'est clair. Quelle est la situation dans les autres pays du monde, Pierre-François ?
Bah, c'est, aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez dramatique, on l'a compris. Dans le reste du monde, il y a des situations extrêmement contrastées. L'autre grand pays des grands magasins, c'est le Japon.
D'accord.
Et le Japon a constitué un très important réseau partout dans le pays avec des chaînes de grands magasins comme Seibu, Isetan, Hankyu, peut-être que ça vous dit quelque chose, qui eux aussi, pendant très longtemps, dans les années 80-90, ont fait le succès des designers internationaux. Sauf que depuis deux décennies, là aussi, le chiffre d'affaires se casse complètement la figure de ces grands magasins, notamment parce qu'il y a une démographie au Japon qui est extrêmement désavantageuse.
Vieillissante.
C'est un pays qui vieillit extrêmement vite. C'est un pays où il n'y a pas de jeunes. Donc, cette Gen Z, elle n'est pas du tout aussi puissante. Et tous ces millennials ne forment pas un nouveau vivier en fait, de clients pour les grands magasins, alors que c'est le cas aux États-Unis ou en Europe. Et puis, il y a eu là aussi des nouveaux concurrents qui sont arrivés, mais surtout dans le domaine physique, avec des chaînes de concept stores comme Beams, comme United Arrows, dont on entend évidemment beaucoup parler sur Entreprendre dans la mode, parce que ça fait partie des grands clients, là aussi, des designers et marques moyen-haut de gamme françaises, qui ont développé des réseaux extrêmement importants, très bien segmentés, en fonction des cibles, en fonction des niveaux de prix. Et puis, sur le très grand luxe, il y a eu, bien sûr, toutes ces marques de luxe qui, elles aussi, ont ouvert leur propre magasin au Japon et ont donc complètement grignoté là aussi.
En concurrence, ouais, en ouvrant des énormes concept stores, enfin des énormes,
exactement,
des énormes boutiques, quoi.
Exactement. Et donc, la situation des grands magasins japonais, elle est absolument pas flamboyante. Et on a plus aujourd'hui le sentiment que les marques internationales servent d'alibi souvent soit ces chaînes comme Beams ou United Arrow, soit comme dans les grands magasins pour mettre en avant, mettre en valeur une marque locale, des marques japonaises qui, elles, se développent plutôt bien sur le pays. Donc, un peu moins d'appétence du côté des marques internationales, sauf dans des cas très, très particuliers, comme Dover Street Market, par exemple, qui au Japon est un exemple absolument fabuleux. Mais c'est vrai que nos grands magasins japonais, c'est vraiment pas toujours très joyeux.
Oui, c'est à l'image de la population, quoi. C'est voilà. Vieillissant.
Hankyu s'en sort un peu mieux, quand même.
Et en Europe, justement, alors du côté de chez nous, il se passe beaucoup de choses, en France notamment.
Oui, alors là, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Ouais.
C'est que dans ce marasme que je viens de vous raconter de ces grands magasins, la situation est évidemment très différente en France. On connaît le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette et le BHV qui appartient bien sûr aux Galeries Lafayette. Elle est très différente parce que la France est un pays où on ouvre des grands magasins. Et ça, c'est assez fou. Et c'est l'ouverture des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées. que l'on a connu il y a quelques mois maintenant, avec un modèle extrêmement différent de tout ce que l'on connaît, avec une place pour les designers qui est très très importante et comme on ne connaissait pas en France. On annonce aussi l'ouverture en mars-avril prochain de la Samaritaine, pilotée par la filiale DFS du groupe LVMH. DFS, vous savez, c'est cette société basée à Hong Kong de Duty Free.
Oui.
Donc on se dit qu'on va cibler d'abord à la Samaritaine bien sûr les touristes étrangers, mais c'est vrai que des ouvertures de grands magasins dans des grandes villes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le marché français. Dans d'autres pays, aux Pays-Bas, en Allemagne, on ne peut pas dire que ce soit la grande fête, là aussi on ferme des grands magasins, et en Grande-Bretagne on a de très jolis exemples de grands magasins. L'exemple mondial que tout le monde regarde, c'est vraiment Harrods à Londres, qui fait figure de grand magasin le plus rentable du monde et donc d'un très bel exemple.
Mais
pour tous les managers,
comment ça se fait qu'il soit aussi fort et aussi puissant et qu'il soit aussi rentable?
Alors ce qui est génial chez Harrods, et c'est évidemment son offre positionnée extrêmement luxe, mais c'est aussi sa position à Londres, son architecture, enfin c'est un magasin qui a beaucoup de choses à raconter par lui-même, et puis c'est Londres, donc c'est une plateforme de touristes internationaux énorme, et notamment tous ces touristes du Moyen-Orient qui sont absolument richissimes et qui adorent se promener chez Harrods
et qui dépensent comme des fous.
Donc cette clientèle moyen-orientale fait partie bien sûr des grandes clés du succès d'un grand magasin comme Harrods. Et puis il y a Selfridges aussi à Londres, qui est aussi un très bel exemple, même si j'entends dire que ça ralentit un petit peu. Mais bon, c'est grand, il y a une culture du grand magasin en Grande-Bretagne qui est importante. Et il ne faut pas oublier l'Espagne aussi et l'Italie, qui sont d'autres grands pays de grands magasins, et notamment cette chaîne El Corte Inglés, dont on a du mal à imaginer qu'elle représente près de 10% des ventes de mode en Espagne.
C'est dingue.
Et ça, c'est donc une puissance absolument folle pour ce grand magasin espagnol.
D'ailleurs, juste pour revenir sur les Galeries Lafayette Champs-Élysées, maintenant qu'on a un petit peu de recul, quels sont les premiers résultats?
Alors, c'est plutôt enthousiasmant ce grand magasin, parce que, encore une fois, il y a une place à la création comme nulle part ailleurs. C'est une offre assez unique à Paris. C'est un magasin qui est extrêmement beau, qui ne ressemble à aucun autre, et qui est placé sur ces Champs-Élysées, plus belle avenue du monde. Donc, malheureusement, je pense que le grand magasin en question, qui a fait l'ouverture la plus folle, enfin, je pense que tous les gens qui ont assisté à la fête d'ouverture des Galeries Lafayette, et j'en faisais partie, se souviendront toute leur vie de cette soirée avec ses 3000 invités, avec une fête, une énergie et une puissance absolument folle qui se dégageait, une joie de vivre qui se dégageait de cette ouverture qui était dingue. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, on sait tous que ça a été des moments extrêmement difficiles. Donc le contexte d'ouverture n'est pas extrêmement facile. Donc je pense qu'il faut encore attendre quelques mois pour pouvoir faire vraiment un réel bilan. Ceci dit, il y a quand même un peu de monde, il y a des Français, il y a un des plus beaux corners de sneakers de Paris, et une offre de marque que l'on ne voit pas ailleurs qui est vraiment extrêmement attirante. Donc à Paris, c'est vrai qu'il y a eu les Galeries Lafayette Champs-Élysées, mais il ne faut pas oublier tous les efforts du printemps, du Bon Marché ou de Lafayette Haussmann aussi, parce qu'il y a des travaux tout le temps, il y a des réouvertures tout le temps. Vous avez vu l'année dernière la beauté, la food et la maison du printemps ont été complètement refaits. Le Bon Marché est scruté par le monde entier aussi, tous les professionnels comme étant un des plus beaux grands magasins du monde. Et puis Haussmann, c'est gigantesque, c'est 10 fois plus grand que Lafayette Champs-Élysées, donc c'est 60 000, 65 000 mètres carrés, c'est absolument dingue.
C'est des vrais commerçants, on sent qu'il y a des familles derrière qui gèrent le business et qui se remettent en question en permanence.
C'est une des grandes aussi forces de ce groupe Galeries Lafayette, c'est que ce groupe n'a pas cédé, il est toujours familial, il est contrôlé par la famille, il y a des membres de la famille parmi le top management, alors qu'aux États-Unis, justement, tous ces grands magasins qui avaient été fondés par des familles, elles ont dû malheureusement très souvent vendre leurs actifs pour permettre aux grands magasins de continuer d'exister. Et au Japon, les familles qui contrôlaient ces grands magasins, comme la famille Tsutsumi pour le groupe Seibu, qui dans les années 90, on l'a complètement oublié, mais Monsieur Tsutsumi, c'était l'homme le plus riche du monde, quoi. Il contrôlait les grands magasins Seibu, et sa descente aux enfers dans les années 2000, aujourd'hui il est sorti de tous les classements possibles et imaginables, parce qu'il a été totalement ruiné par des fraudes, des malversations, et bien sûr la décroissance des ventes de ce grand magasin Seibu.
Ceci dit, les grands magasins aux États-Unis, au Japon et en Europe, ils opèrent pas de la même façon. Il y a en réalité plusieurs modèles de grands magasins, j'ai l'impression.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de grands magasins en pensant que tout ça fonctionne à peu près de la même manière. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'au Japon, les grands magasins sont essentiellement des concessions. Ça veut dire que les marques payent un loyer et donnent un pourcentage de leur vente, de leur chiffre d'affaires, aux grands magasins en question. Aux États-Unis, ce sont des grands magasins qui font encore beaucoup de wholesale, c'est-à-dire qu'ils font de l'achat ferme auprès des marques. Ce qui est aussi intéressant aux États-Unis et ce qui cause la chute d'ailleurs de tous ces grands magasins, c'est que le coût du retail, les loyers de ces grands magasins, sont extrêmement chers. Et en Europe, les groupes qui contrôlent les grands magasins possèdent aussi souvent l'immobilier du grand magasin. Donc, ils n'ont pas un loyer à payer en plus. Alors qu'aux États-Unis, on a séparé l'exploitation du grand magasin avec le loyer, avec l'immobilier. Et donc, ces coûts de l'immobilier ne cessent d'augmenter parce que les prix de l'immobilier à Manhattan ou dans les grandes villes américaines ne cessent d'augmenter depuis 10 ans. Et donc, ça a été d'ailleurs une des raisons de la chute de Barneys. Le loyer du grand magasin a dû doubler. Et donc, Barneys n'a pas pu payer, en fait, à son landlord, à son propriétaire, le loyer en question. Et quand on ne peut plus payer, on passe dans les mains des créanciers. Et là, c'est le début de la fin et on démantèle, et c'est le cas pour Barneys, le groupe en question. Alors, Japon, on a compris, beaucoup de concessions. USA, beaucoup de wholesale. Et en Europe, un modèle hybride avec de l'achat ferme et des concessions. Et là encore, en Europe, donc souvent des familles qui contrôlent ces grands magasins avec donc une très forte stabilité de l'actionnariat qui permet de mettre en place des stratégies à long terme. Et c'est le cas des Galeries Lafayette que l'on connaît, puisqu'au-delà de l'ouverture des Champs-Élysées, vous avez vu l'ouverture d'Italie, vous avez vu au-delà d'Italie, toute la renaissance du quartier, du Marais autour du BHV qui a été...
C'est fabuleux.
Piloté par le groupe Galeries Lafayette. Vous avez vu que les Galeries Lafayette ont ouvert deux grands magasins en Chine, le dernier à Shanghai la semaine dernière. Il y a d'autres ouvertures prévues dans ce pays. Il y a eu des ouvertures dans le Golfe, aux États-Unis. Il y a un projet au Luxembourg. Il y a un projet aussi d'ouverture d'un nouveau grand magasin Galeries Lafayette à Beaugrenelle à Paris. Donc, c'est un groupe qui investit beaucoup, mais parce que c'est aussi un groupe familial qui permet de se projeter dans le long terme et qui permet d'aboutir tous ces projets, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si un fonds d'investissement avait été aux manettes.
Et les marques dans tout ça, alors l'affaiblissement des grands magasins, ça veut dire quoi pour elles?
C'est pas une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que ça me paraissait aussi très intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cet effondrement symbolique de Barneys aux États-Unis, il y a des répercussions sur les marques, sur tous ces designers qui ont compté sur Barneys pendant des années, parce que c'était à la fois un gros client, bien sûr, et puis en plus une adresse, on l'a vu, extrêmement symbolique.
Positionnante,
positionnante, comme Colette a pu l'être à un moment donné à Paris, par exemple. Barneys, c'était vraiment extrêmement positionnant aux États-Unis. Et là, on apprend que Barneys devrait 3,7 millions de dollars à la marque américaine Zero, qu'elle devrait 2,7 millions de dollars à Céline, c'est ce que la presse américaine nous dit. Donc, on voit bien que même les grandes marques n'arrivaient plus à se faire payer ces derniers mois. Et quitter Barneys, ce n'était même pas envisageable pour elles, parce que c'était tellement iconique et tellement important qu'elles préféraient ne pas se faire payer plutôt que de quitter. Mais vont-elles avoir encore aujourd'hui les moyens de le faire? Quand on est grand, peut-être, quand on est petit, quand on est un designer moyen, qu'on défile à Paris, qu'on émerge et qu'on a la chance d'avoir Barneys et que Barneys nous laisse une ardoise, ça fait extrêmement mal. Donc, on est dans une période qui est très fragile pour les marques de designers. Si aujourd'hui, elles n'ont pas les revenus de licence d'un parfum, par exemple, ou si elles n'ont pas un groupe solide derrière elles, il faut être extrêmement précautionneux sur toutes ces questions de paiement. Et encore une fois, l'exemple de Barneys n'est pas extrêmement réjouissant. Alors, l'exemple de Barneys et cette conséquence, c'est aussi sans doute un exemple que le wholesale, ce marché du wholesale, donc de la vente en gros, se réduit avec lui-même un nombre de grands magasins qui se réduit, et donc un marché qui se transforme. Ces grands magasins sont aujourd'hui, chez beaucoup de marques, remplacés par des plateformes digitales qui, en termes de poids de chiffre d'affaires, sont extrêmement importantes. Hein. On a parlé tout à l'heure des Matchis, des Net-à-Porter, etc. Donc, il faut espérer que celles-ci vont tenir le coup. Mais ça coûte bien sûr très cher hein, de faire venir aussi toutes ces marques. Il faut trouver des arguments, développer des exclusivités, développer un plan d'animation commerciale, même pour ces plateformes digitales. Hein. Mmh. Il faut trouver des bons deals. Donc, beaucoup de ces plateformes digitales, on espère qu'elles vont tenir le coup, mais on sait qu'elles sont fragiles parce qu'elles font comme un grand magasin, sauf qu'il n'est pas physique, mais c'est le même modèle économique, entre guillemets. C'est-à-dire que on achète à des marques, on les met sur le marché, mais est-ce que la marge va suffire entre les deux pour couvrir tous ces frais de recherche de nouvelles marques, d'exclusivité, de plans d'action commerciale, de com, de recherche des bons deals, de développement d'une expérience unique, y compris sur le digital. Tout ça, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur ces questions. Voilà, il faut rester évidemment dans le coup, il faut rester pour toutes les marques de designers à la recherche de ces nouveaux clients pour pouvoir équilibrer son risque aussi entre les différents canaux de distribution, parce qu'on voit que le risque augmente.
Ouais, c'est énorme. La faillite de Barneys, il y a aussi une dimension symbolique. Enfin, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, peut-être, de ça.
Oui, on en a parlé, mais en même temps, il y a un truc, moi, qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est peut-être passé un petit peu sous le radar, c'est que à peu près au même moment où on annonçait la faillite de Barneys, on apprenait la disparition de la marque Zac Posen. Mmh. Et ce designer américain, Zac Posen, aux États-Unis, enfin, c'était énorme. Quoi.
C'était le king, ouais.
C'était un designer extrêmement emblématique de cette mode américaine dont on parlait tout à l'heure. Donc là aussi, cette disparition, c'est vraiment un signe de plus que les temps ont changé, qu'il faut faire attention à là où on met sa marchandise quand on est une marque, qu'il faut faire attention à sa manière de distribuer, que le digital n'a jamais été aussi bien sûr important qu'aujourd'hui, que les modèles économiques des grands magasins, on l'a vu, ne sont pas uniformes. Donc, faut pas dire « Oh, j'ai plus du tout besoin des grands magasins ». Pas du tout. Hein. C'est une très, très belle plateforme de communication et aussi de revenus dans un très grand nombre de cas. Simplement, ben, il faut là aussi rester up to date, là aussi pas se laisser démoder par des réseaux de distribution qui eux-mêmes se démodent. Donc rester à l'affût des nouvelles boutiques, des nouveaux lieux de distribution, des nouvelles manières de distribuer ses produits pour garder une appétence symbolique extrêmement forte vis-à-vis de ses clients. C'est là aussi une des conclusions qu'il faudra conserver de cette faillite de Barneys qui secoue tout notre petit monde de la mode.
Très bien. Eh ben, écoute, merci infiniment. Je ne sais pas si tu as d'autres sujets, d'autres mots à rajouter à cette...
Bah là, on a fait quand même un tour assez joyeux.
Ouais, c'est clair. C'était vachement intéressant.
Bon, et vive les Galeries Lafayette et les autres department stores français.
Exactement. Ça nous rend hyper fiers d'être français. Là. C'est quand même des bonnes nouvelles pour nous. Merci beaucoup, Pierre-François. On se retrouve dans quelques semaines à nouveau dans un News and Analysis pour parler d'un autre sujet. Ce sera peut-être avec Nathalie Rosborski. Cette fois-ci, à très bientôt et merci.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.